On va déguster tous les dimanches sur France Inter à partir de 11h.
On y va pour les deux plats du jour.
Je peux goûter comme ça?
Oui, 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 bien sûr.
The menu, please.
Oh, tu trouves ça?
Bonjour, ma ravissante cousine. Que fais-tu ici?
Gros bêta, tu le vois, je cueille des fraises.
Est-ce qu'on peut savoir à quelle heure mortelle iront ces fraises sauvages?
Je travaille donc avec une plume, doigt, pour aller retirer les pépins dans le grain de groseille.
Donc on est les seuls à connaître le secret et à faire la véritable confiture de Bar-le-Duc.
On peut le goûter?
Ah oui? Sachant que le cassis, il y a quand même une fenêtre qui est très très courte pour pouvoir le ramasser et le récolter. Et donc là, pendant quelques jours, on a ce point d'équilibre.
Tiramisu aux fruits rouges, très onctueux.
La canneberge, c'est un petit fruit que l'on va trouver habituellement dans des milieux très particuliers, qui sont les tourbières.
Ça fait un peu mal au dos, c'est sûr, mais après, t'es bien content. Cueillez des myrtilles.
Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le plateau dont on va déguster dernier numéro de notre série d'été. Framboises, groseilles, myrtilles, cassis. Alors comment les appeler? Les fruits rouges, oui, sauf qu'ils sont parfois noirs. Les fruits des bois, oui, mais on va voir qu'on les cultive souvent dans nos jardins. Les petits fruits, on oublie en effet aujourd'hui les grosses fraises et les pulpeuses cerises pour évoquer uniquement les baies, les drupes, les drupéoles, bref, ces petits fruits rouges et noirs. Et on les évoque avec deux spécialistes. Frédéric Cassel, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes un de nos grands pâtissiers, président de l'association Relais Desserts. Vous exercez à Fontainebleau en Seine-et-Marne et vous êtes littéralement amoureux des fruits rouges au point d'avoir développé vos propres jardins à Vertot, hein, c'est pas très loin de Fontainebleau.
Voilà, tout à fait, à 10 km de Fontainebleau.
C'est ça, et vous nous avez apporté d'ailleurs un très bel échantillon. Et vous avez signé aux éditions La Martinière les fruits rouges de mon jardin. Dégustez les baies en 70 recettes et quelques-unes de ces recettes. Vous allez précisément les expliquer à nos auditeurs dans un instant. Jean-Luc Thibault, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à la tête avec votre associé Michael Richard de la Ronde des Fruits, c'est bien ça?
C'est bien ça.
Une exploitation bio spécialisée dans les petits fruits rouges. Située où ça?
La Membrolle-sur-Longnay, en Anjou.
Dans le Maine-et-Loire, une charmante bourgade angevine. Vous allez nous emmener dans vos champs et vous nous avez apporté un superbe échantillon. C'est un camaïeu rouge et noir de petits fruits pile à point. Je pense qu'ils ont été cuits il n'y a pas si longtemps.
Ce matin et hier. Ouais.
Et on va les déguster ensemble avec nos chroniqueurs et chroniqueuses, à commencer par Elvira Masson, bonjour.
Bonjour à tous.
Lady Masson, prépare le tea time aujourd'hui.
Morning, morning. Rassurez-moi, Frédéric Cassel, il n'y a pas de recette de summer pudding dans votre livre?
Non.
Bah très bien, je ne suis pas venue pour rien alors.
Imaginez affronter la concurrence de Frédéric Cassel, l'un des meilleurs pâtissiers de France.
Sincèrement, je ne sais pas ce qui m'a pris.
Le défi était assez relevé. Jérôme Gagnès, bonjour.
Bonjour à tous.
Votre prescription du jour?
Un extrait de fruits rouges.
Ah, pas d'alcool aujourd'hui?
Si, un petit peu quand même.
Un petit peu, ça m'aurait étonné.
Peu.
Bon, Camille Blanès réalise l'émission avec Guillaume Roux, Nadia Chougui pour la préparation, Djoubaka pour la programmation musicale, les recettes de notre invité Frédéric Cassel, nos infos pratiques, nos adresses, le podcast de l'émission sont à retrouver sur franceinter.fr à la page On va déguster.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Juste avant de croquer dans les fruits rouges, mon petit coup de cœur de la semaine se trouve dans une assiette qu'il y a chacun en face de vous. Je suis un fromage de vache qui sent bon l'herbe fraîche et la fleur sauvage. Est-ce que vous l'avez reconnu? Allez, Elvira.
Mais mon assiette est vide, donc je pense que je l'ai reconnu. Oui, c'est du laïol, non?
Bravo, laïol. Ouais. Vous aimez le laïol ou pas autour de ce plateau?
J'adore, moi.
Qu'est-ce que vous en pensez, Jean-Luc?
Très goûté.
Oui.
Très agréable.
Frédéric Cassel, une petite impression?
Moi, j'aime bien cette pâte ferme, en fait. Ouais. Enfin, qui paraît ferme, mais en même temps, qui est quand même très, très fondante en bouche. C'est ça que j'aime bien.
Jérôme?
Eh bien, moi, j'aime beaucoup ce fromage parce qu'il est acide. Il y a de l'acidité, j'aime beaucoup ça.
Il y a de l'acidité.
Ouais.
Il y a cette idée d'une fleur fraîche, ouais. de pâturage frais et gras. Il y a des arômes de noisettes, une longueur en bouche, quand même, avouez-le, assez phénoménale. Et celui-ci en particulier, car si Elvira a raison, la réponse n'est pas totalement complète. Il s'agit de l'aïol, AOP évidemment, mais c'est la cuvée Grand Aubrac. C'était compliqué à trouver. Mais la cuvée Grand Aubrac, c'est un fromage d'herbage par excellence qui est exclusivement fabriqué avec du lait cru issu de la période de pâturage. Ça veut dire que c'est un fromage de saison que l'on mange en ce moment avec des laits, encore une fois, issus de vaches qui ont brouté cette belle herbe fraîche de printemps. C'est un fromage qui a été fabriqué par Jeune Montagne, une coopérative, et je dois vraiment leur donner un coup de chapeau, une coopérative fromagère indépendante qui est véritablement un modèle de réussite. J'ai envie de dire que Jeune Montagne, c'est la France qui gagne, mais dans un modèle de développement durable. Pourquoi ? Cette coopérative a été fondée en 1960 par un certain André Valadier, un jeune producteur qui, en pleine industrialisation agricole, refusa le déclin de la tradition fromagère de l'Aubrac. Il lutta pour sauver la race Aubrac de la dégénérescence et il aida à l'obtention de l'appellation d'origine protégée qui arrivera quelques années plus tard. Résultat aujourd'hui, Jeune Montagne, c'est une très belle fromagerie située à Layol qui maîtrise toute la chaîne de la fabrication du Layol AOP depuis la collecte quotidienne du lait cru dans les fermes jusqu'à l'affinage. Et il y a quand même, ça réunit 76 producteurs de lait cru, 90 salariés, 750 tonnes de fromage de Layol. Preuve que dans cette circonstance, on peut allier quantité, qualité, respect du terroir et défense de la race Aubrac. Jeune Montagne fabrique également
un aligo exceptionnel.
Edgar Masson a parlé. Non, il est fabuleux,
il est fabuleux.
Que vous avez l'habitude de manger.
J'en ai mangé, oui, des vingtaines et des trentaines.
Un excellent aligo, oui, là encore, quasiment semi-industriel. Bon, ouais. On peut le trouver en grande surface, oui, c'est pas si mal de mettre de temps en temps les pieds dans une grande surface, surtout pour y trouver un aligo fait avec une pomme de terre et de la tomme fraîche sans le moindre additif, pas de colorant, pas de conservateur, avec une tomme fraîche de lait cru. Voilà un très beau produit qui en plus plaît aux enfants. Et la bonne nouvelle, c'est que cette fromagerie, Jeune Montagne, en plus d'accueillir gratuitement 7 jours sur 7 des dizaines de milliers de visiteurs chaque année, eh bien cette jeune coopérative organise également pendant l'été, tous les mardis et les jeudis, des visites dans les fermes des producteurs. Et c'est l'occasion pour toutes les familles qui passent leurs vacances dans l'Aveyron d'assister à la traite, de vérifier en toute transparence que les bêtes pâturent au champ, sont nourries uniquement de foin récolté sur la zone d'appellation. Il n'y a pas d'ensilage. Voilà, un très beau modèle agricole.
Il y a l'aligo pour tous à la fin,
à l'échelle de l'Aubrac. Ça, l'histoire ne le raconte pas, mais il faut leur poser la question. Et ces visites ont lieu les mardis et les jeudis entre 16h et 18h jusqu'au 30 août. On vous a indiqué toutes les informations sur le site internet, Jérôme.
J'ajoute que sur ce merveilleux fromage, on imagine très 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 bien un joli rouge bien acidulé.
Un Marcillac
ouais, par exemple, un Marcillac. Mmh. Alors le domaine du Croc, on en a parlé il y a 3 semaines. Mais voilà, il y a vraiment des très jolis vins dans le coin. Rouge acidulé avec de l'acidité, ça viendra rencontrer l'acidité du fromage.
Voilà, un beau mariage gustatif et géographique, absolument. Toutes les infos pratique pour les visites à Jeune Montagne, franceinter.fr. À la page, on va déguster.
Cette mélodie qui longe la Seine, du quai des Tournelles à l'île Saint-Louis, je la fredonne et pense à Verlaine, à François Villon, perdu dans la nuit. Mais pour retenir cette ombre qui passe et qui fait semblant de n'être qu'une ombre qui brille et s'efface au fil du courant. D'Apache, un refrain d'avant qui n'existe plus que dans les vieux films, quand le paradis avait des enfants. 3 heures du matin, quand passe le crime sur les marais chauds, le sang et la peur sont dans les vitrines. Où les caniveaux, comme un drap froissé, le ciel se déplie sur la ville grise, un soleil mouillé réchauffe les eaux de l'académie, l'heure où les poètes sont sur le pavé. C'est la chanson de Paris la grise qui tiendra le jour entre ses deux mains sur un air venu du temps des cerises. Un accordéon en joue le refrain. C'est la chanson de Paris la grise qui tiendra le jour entre ses deux mains sur un air venu du temps des cerises, un accordéon en joue le refrain.
Bernard Lavillier avec le titre Paris la grise, mais nos fruits aujourd'hui sont loin d'être gris, ils sont bien rouges, voire un peu noirs, les petits fruits rouges et noirs au menu dont on va déguster. Et vous savez ce qu'il dégustait, le grand Alfred ?
Pour la petite histoire, Alfred Hitchcock, s'il n'avait pas son petit pot de groseille épépinée le matin pour le petit déjeuner, il refusait de dormir à l'hôtel.
Rôle de bonhomme en fait.
On va déguster les saveurs de l'été.
Confiture de groseille au menu du petit déjeuner du cinéaste britannique Alfred Hitchcock. Et vous savez d'où elle venait, cette confiture de groseille, ou pas ?
Elle était épipinée à la plume d'oie.
Bravo, ouais.
Donc elle venait de Lorraine.
Ah, absolument, Bar-le-Duc.
Ouais.
Oh là là, mais elle est incollable, cette Elvira. Vous la connaissez, la confiture de groseille épépinée à la plume d'oie, Bar-le-Duc, une spécialité de la Meuse en Lorraine, effectivement. Et c'est quand même une spécialité qui est attestée par des documents depuis 1344.
Et j'en suis membre.
Non.
Tout à fait. J'y suis allé. Et... alors c'est vrai que la première fois qu'on vous met une plume d'oie pour épépiner les groseilles, c'est assez impressionnant, quoi. Le boulot qu'il y a là-dessus.
Oui.
C'est vraiment l'amour de ces gens. Enfin, les gens qui font ça, c'est vraiment un amour, parce qu'en fait, c'est pas rentable du tout.
Ce qui explique d'ailleurs le prix des petits pots. Hein.
Ah oui, mais il y a une passion. C'est du caviar. C'est du caviar, mais il y a une passion derrière ça. Enfin, ce qu'on récupère, c'est rien, quoi, une fois que vous avez enlevé déjà l'intérieur.
Frédéric Cassel, notre pâtissier de Fontainebleau, que pense-t-il de la groseille en tant que fruit?
Je la trouve très belle quand elle est en grappe. Je trouve que ça finit un gâteau, c'est exceptionnel. Pour moi, ça n'a pas un goût exceptionnel, la groseille. C'est acide, mais par contre, ça décore bien nos gâteaux, ça rehausse justement l'image d'un beau gâteau.
C'est presque un peu électrique en bouche, la groseille, en fait.
Ouais, c'est assez électrique. Alors, c'est vrai que moi, je l'adore en confiture, voilà.
Ah oui, en gelée, c'est formidable.
Voilà, en gelée, c'est extraordinaire, et la gelée, c'est assez facile à faire.
Jean-Luc Thibault, producteur de fruits rouges du côté de l'Anjou. Évidemment, il y a des groseilles dans votre jardin.
Bien sûr, bien sûr.
Et pas qu'une seule variété, j'imagine.
On cultive plusieurs variétés de groseilles. Donc, des groseilles qui arrivent plutôt précocement, qu'on récolte à partir du 10 juin.
Mm-hmm.
Et puis, des variétés comme la Mulca, qui viennent maintenant, et qui sont beaucoup plus petites.
La Mulca, c'est la petite plus foncée,
voilà,
sur votre
ça.
Gauche.
C'est ça.
Petite bille rouge foncée, Bordeaux, grenat presque.
Oui, c'est ça. Et voilà. Pour le coup, d'un diamètre très très limité, quelques c'est millimètres ça. En fait.
Voilà.
Hein.
Alors la plume d'oie aurait du mal à rentrer dedans.
C'est sûr.
Mais ce sont des variétés qui viennent un peu plus tard et qui mm-hmm. permettent aussi la décoration. Et puis, quand on aime la groseille, eh bien, on peut la trouver plus longtemps dans la saison.
On a des groseilles blanches qui sont assez intéressantes aussi.
Oui.
Je trouve ça assez
absolument
joli,
ouais. Translucide.
Ouais, translucide. Ouais. Enfin, on voit vraiment l'intérieur. On voit vraiment l'intérieur de la groseille. Ça, c'est assez joli.
Il y a une différence de goût.
Ouais, c'est beaucoup moins goûteux, je trouve. Là, c'est vraiment on est vraiment dans le fruit joli.
Et quand on vous parle de groseille à maquereau, ça vous dit quelque chose, Jean-Luc Thibault ?
Oui, alors on cultive effectivement de la groseille à maquereau. Ce sont vraiment des espèces qui sont beaucoup plus anciennes. Et je dis souvent, sur le marché, nos petites grand-mères qui viennent qui nous disent « Oh, ça me rappelle le jardin de ma grand-mère ».
Comment vous pourriez décrire le fruit à nos auditeurs ?
Alors, il y a plusieurs variétés. Il
oui.
y a une variété rouge
mm-hmm.
qui est avec une peau épaisse et puis une chair assez ferme, acidulée. Une variété blanche plus grosse, également avec une peau assez épaisse. Ce sont des petits fruits qui sont utilisés en transformation et puis pour accompagner du gibier, des poissons.
D'où le nom groseille à maquereau ?
Oui, je pense que ça vient de là.
L'hypothèse la plus probable serait qu'on aurait beaucoup mangé ce poisson gras avec, pour compenser justement le côté gras du poisson, l'acidité d'un fruit qui est justement le groseille. D'où groseille à maquereau. Ce gros fruit qu'on a la chance d'avoir sur le plateau dont on va déguster en ce dimanche d'été. À bien fouiller dans son enfance, on retrouve toujours une histoire de framboise, de myrtille, de fraise des bois, la preuve. Jean-Luc Thibault, s'il y avait un seul souvenir de fruits rouges qui remonte à la surface, ce serait lequel ?
Alors un souvenir, c'est dans le jardin de mes parents, en rentrant de l'école, j'allais me cacher derrière le bâtiment pour aller déguster les muroises, une tébérie qu'on appelait à cette époque-là la muroise. Et c'est une grosse framboise acidulée, un croisement de mûres et de framboises.
On l'a en plateau.
Qu'est-ce qu'une tébérie ?
La tébérie, donc... elle a été sélectionnée apparemment en Écosse.
Et berry comme baie en anglais.
Voilà, c'est ça. Et thé viendrait d'un fleuve d'Écosse.
D'accord. Et ce serait un croisement, manifestement, une hybridation.
Voilà, c'est une hybridation.
Entre la framboise.
La framboise et la mûre.
La framboise et la mûre.
Écoutez, ça a presque un petit parfum de rose. Vous voyez ce que je veux dire ?
Très juste.
On commence à s'en servir justement en pâtisserie parce que c'est un goût vraiment un petit peu spécial.
C'est très aromatique.
Voilà, c'est très aromatique.
Très aromatique. Texture très fondante. Et on est effectivement, on balance comme ça, papille gauche, papille droite, entre la framboise et la mûre. Voilà. Tout à
Jérôme,
fait troublant comme sensation.
Vous n'allez pas aimer, Jérôme, vous n'aimez pas l'eau de rose.
Et ça ressemble là aussi à une framboise qui aurait bien bronzé en fait, hein, bien foncé.
Voilà, c'est ça.
Frédéric Cassel.
Ah mais moi j'adore, je connais déjà le produit et je m'en sers justement dans certains mélanges de. On a fait un macaron justement avec une ganache vanille, juste avec un intérieur comme ça de gelée de muroise.
Vous, le souvenir d'enfance concernant les fruits rouges, ça se passait
où ? Le souvenir d'enfance, tout de suite, c'est ma grand-mère, parce qu'en fait, ma grand-mère a un immense jardin et c'est elle qui m'a mis un coup de pied à l'étrier. Donc elle était de Saint-Riquier.
Saint-Riquier, c'est la Somme.
Dans la Somme, voilà. Et en fait, après la guerre, on allait dans le jardin et puis on prenait ce qu'il y avait, les légumes, etc. Et puis on faisait des gâteaux avec ce qu'il y avait. Donc les produits de saison, pour eux, c'était important. Et donc, on allait cueillir les framboises. Alors, je pense qu'on en mangeait plus qu'on en récoltait, mais c'était ça qui était important. En fait, aussi, il y avait cette histoire de framboises chaudes qui était importante. Et moi, je l'ai retrouvée justement avec le monsieur avec qui maintenant je travaille, parce que c'était une belle rencontre.
La framboise, comme tous les fruits, de toute façon, c'est toujours meilleur tiédi par le soleil. Ah, mais c'est cueilli directement dans le jardin.
Je pense que d'emmener ses enfants cueillir des fruits dans des jardins, c'est une expérience extraordinaire. Mm-hmm. Mais les gens maintenant, ils sont tous devant leur télé, devant leur jeu. Mais sortez-les, vous allez voir, c'est des moments extraordinaires avec ses enfants.
Et Frédéric Cassel, pâtissier à Fontainebleau, je crois savoir que dans votre parcours de pâtissier, vos souvenirs d'enfance sont remontés il y a une dizaine d'années grâce à un certain monsieur Chardon. S'est-il passé ?
Monsieur Chardon, un jour, il est venu dans ma boutique un samedi après-midi et donc il y a une vendeuse qui m'appelle qui me dit, il y a un monsieur qui vend des framboises. Bon, alors j'arrive, je lui dis, ils sont superbes. Donc, il avait un petit sac avec des framboises et je lui dis, c'est super, je vous achète ça. Et je me suis retrouvé en fait dans le jardin de ma grand-mère à cueillir les framboises. Elles étaient chaudes, elles venaient d'être cueillies, elles étaient... Enfin, on appuyait dessus, ça remontait. C'était vraiment la fraîcheur était là, quoi. Et je lui dis mais c'est génial. Je lui dis allez, samedi prochain, vous m'en livrez 20 colis. Et il m'a dit non, j'ai que 6 barquettes. Ah bon. Je lui dis mais qu'est-ce qu'il me fait lui. Après, je suis un peu têtu et en fait, je l'ai appelé, je l'ai harcelé parce que là, c'est vraiment du harcèlement quand je veux quelque chose. Mais après, on s'est retrouvé. Je lui dis mais écoutez, moi, je m'engage à acheter ça. Est-ce que vous voulez qu'on travaille ensemble? On achète la première serre ensemble et puis on plante. Et donc, on a planté 2-3 serres de framboises. Et puis, au bout de 5 ans, j'ai dit voilà, je voudrais bien avoir des fraises. Et il m'a dit faut voir ça avec mon fils, etc.
Pendant 5 ans, c'était que des framboises.
C'était que des framboises. Enfin, c'est un produit fétiche pour moi. J'adore la framboise. J'adore travailler ce fruit. Et donc après, on a planté des fraises. J'ai emmené son fils en stage pour savoir comment on plantait des fraises. Il savait pas, c'est un céréalier. Et là, ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai la troisième génération qui arrive. C'est la petite fille de Monsieur Chardon, qui l'autre jour, j'ai emmené Pierre Hermé, j'ai emmené tous les pâtissiers de Paris visiter la fraiserie. Et en fait, la fille, elle est là, elle a 17 ans. Et elle raconte les fraises, mais je trouve ça, et j'en ai la chair de poule rien qu'à vous en parler, parce que je me dis, il y a 3 générations qui sont passées en moins de 15 ans là, et on a une histoire extraordinaire. C'est pour ça que je l'ai écrit dans ce livre, parce que, enfin, je trouve ça génial quoi. On est parti de 6 barquettes avant parce qu'il y en a trop dans son jardin, et maintenant on produit tous nos fruits pour tous nos gâteaux, pour toutes nos glaces.
Et Frédéric Cassel, vous pouvez même vous targuer d'être autonome en termes de fruits rouges.
Ah tout à fait, ouais.
Vous êtes à la tête de 7. Serre quand même, à Vertour, on n'est pas très loin de Fontainebleau.
Ah, c'est à 10 km, oui. Donc c'est cueilli, c'est tout de suite. En fait, il n'y a pas 50 frigos entre deux, quoi. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'on les cueille, on les ramène et on les mange, quoi.
Et vos fruits, c'est de la serre à l'assiette.
De la serre à l'assiette, on peut dire, ouais.
C'est vraiment incroyable, vous ne traitez rien.
Surtout pas. On essaye le moins possible. C'est-à-dire qu'on achète des coccinelles, on achète des bourdons pour polliniser les. En Seine-et-Marne, il fait quand même froid, donc on achète des bourdons pour polliniser parce que les bourdons sortent beaucoup plus à une température beaucoup plus froide. Et ça, je savais pas. Donc j'apprends tous les jours. Moi, c'est extraordinaire. Je savais pas qu'on pouvait acheter des bourdons déjà. Donc, et là, je suis en train de voir avec un jeune aussi pour faire du miel dans la fraiserie pour justement
pour avoir favoriser abeilles, la pollinisation.
Voilà. Et j'ai dit bah voilà, je viens de trouver un jeune là il y a 15 jours et je m'engage, je vais acheter tout son miel quoi.
Et la belle histoire, c'est que je crois même savoir que le surplus de production, vous la vendez à quelques copains.
Ah bah après oui, bah c'est vrai que quand ça donne beaucoup, j'ai beau faire mes glaces, mes coulis, c'est vrai que bah dans ces cas-là, Pierre Hermé m'appelle, il me dit on peut avoir tes fraises. Mais c'est ça qui est top, c'est que cet échange, il vient jusqu'à Paris. Alors c'est vrai que quand j'ai Monsieur Chardon, fois à Paris, il me dit oh là là, faut monter à Paris. Mais voilà, l'histoire elle est là. Voilà.
Vous avez la chance, chers amis qui nous écoutez, d'avoir un framboisier au fond du jardin et d'avoir suffisamment de framboises pour faire un joli dessert d'été. Frédéric Cassel a la solution. Dans Les fruits rouges de mon jardin, déguster les baies en 70 recettes aux éditions de La Martinière, on attaque avec une papillote de framboises. Petite recette toute simple, ménagère et très efficace.
Alors ça, c'est un truc que vous faites avec les enfants le dimanche hein, à la maison. Vous achetez une barquette de framboises par personne, c'est pas compliqué. Vous prenez un morceau de papier sulfurisé ou de papier alu, vous jetez votre barquette dedans, un zeste de citron vert, un zeste de citron jaune, un morceau de cannelle, un petit morceau de vanille, et vous refermez bien hermétiquement votre papillote. Ensuite, vous mettez ça au four, thermostat très chaud.
Combien de temps ?
Ça 10 minutes.
C'est quoi le thermostat très chaud ?
190. Et ensuite, vous allez voir, votre papillote, elle gonfle. Et dès que ça gonfle, vous laissez une minute. Vous la sortez, les framboises, enfin, vous coupez votre papier. Et là, vous jetez une boule de glace vanille ou une boule de glace pistache que vous aimez le plus. Et là, et c'est extraordinaire parce qu'en fait, il y a toutes ces framboises qui sont confites par le jus. Mmh. Il y a la boule de glace vanille qui fond, donc vous avez un chaud froid. Mais ça, c'est hyper simple.
La photo de votre livre est assez irrésistible, je dois dire. La recette est en ligne sur franceinter.fr à la page. On va déguster la papillote de framboise par Frédéric Cassel. Là, c'est vraiment un truc en trois gestes, très facile.
Ah oui, non, c'est hyper facile.
Ça vous fait envie ou pas, Jean-Luc Thibault ?
Bah bien sûr, bien sûr. Déguster les fruits rouges de cette manière, c'est...
Je voyais vos yeux faire des ronds lorsque Frédéric Cassel évoquait son jardin où il ne traite rien, où il encourage la biodiversité. Ça me fait penser à un certain jardin de 11 hectares. Vous êtes à la tête de jardin Angevin, où là aussi vous faites véritablement des efforts pour vous tourner vers l'agriculture bio, le respect de la biodiversité et le développement local. Comment peut-on imaginer, d'autant que je crois que votre jardin est ouvert au public, donc ceux qui ont la chance d'être dans la région peuvent aller y faire un tour, comment peut-on imaginer, pour ceux qui nous écoutent, ce petit Éden dédié aux fruits rouges ?
Alors je me suis installé il y a 20 ans sur une petite surface de 3 hectares et demi pour cultiver des fruits en agriculture biologique avec la possibilité de transformer une partie de mes fruits. Je voulais être responsable de mon produit du début jusqu'à la fin et donc vendre mes produits aux consommateurs directement.
Il y a des haies, ce qui correspond un peu au principe de l'agroforesterie, où vous essayez vraiment de constituer un écosystème, les oiseaux chantent, il y a des insectes.
Nous avons une surface qui est entourée de haies, mais nous cultivons également d'autres arbres fruitiers, des pommiers, des poiriers, des cerisiers, etc. Et donc, les cultures, on n'a pas un champ de framboises, un champ de fraises, mais tout est les uns à côté des autres, ce qui permet aussi, justement, de faire des ruptures sanitaires pour permettre aux prédateurs d'attaquer les insectes qui pourraient être ravageurs. Mmh. Et puis, on laisse partout des bandes enherbées qui permettent également aux araignées de pouvoir s'attaquer, par exemple, en ce moment, aux drosophiles. Mm-hmm. La drosophile qui est un petit insecte qui vient pondre sur les petits fruits, framboises, fraises principalement, et qui peuvent faire beaucoup de dégâts.
Et là, vous avez mis en place une lutte biologique.
Voilà, c'est ça, un système de lutte biologique qui nous permet de n'utiliser aucun produit de traitement.
Et des donc, nichoirs à mésanges aussi.
Voilà, donc on utilise également une quinzaine ou une vingtaine de nichoirs à mésanges sur les 15 hectares de terre, ce qui nous permet aussi d'avoir des prédateurs d'autres espèces. Et puis, on va mettre des perchoirs à rapaces qui, eux, vont pouvoir, au milieu de la parcelle, venir surveiller les mulots qui pourraient venir faire quelques petits dégâts.
Petit écosystème magnifique où pousse, évidemment, on ne vous a pas posé la question, mais on parlait framboises à l'instant, plusieurs variétés de framboises.
Oui, bien sûr.
Lesquelles, en l'occurrence ?
Bien sûr. Alors, par exemple, ici, on a de la Frida, qui est une variété de printemps. Mm-hmm. Alors, les variétés de printemps se terminent.
Je propose Jérôme Gagnès d'aller chercher les trois barquettes.
Et puis, on commence donc les variétés remontantes, l'August Red qui est plus claire, et puis la September qui est une autre variété venant succéder aux variétés de printemps.
On a une question d'auditeur, on nous demande si la framboise sauvage, la framboise pousse encore à l'état sauvage.
Bien sûr, dans les Alpes, dans les Pyrénées, on trouve très facilement des framboises sauvages qui sont souvent un peu plus petites, mais qui sont très aromatiques et très parfumées.
Ça se passe comment, Jérôme Gagnès, la dégustation des trois variétés apportées par Jean-Luc Thibault?
Ça se passe très bien, avec en particulier
l'August Red.
L'August Red, qui me rappelle pas mal de souvenirs. Et la Frida qui me rappelle là pour le coup.
Qui est beaucoup plus foncé en termes de couleur.
Qui est beaucoup plus foncé. Et comme Frédéric, moi c'est chez ma grand-mère qu'on rectifiait assez sévèrement les récoltes de framboises avec mes cousins l'été. Cette framboise chaude.
Donc vous diriez que votre préférée c'est laquelle entre les trois?
C'est la Frida.
Il y a une grande différence de goût.
Elles sont, c'est plus ou moins subtil. Ça fait un peu penser aux différences qu'il y a entre les essences de rose quand on sent les fleurs. Il y a une différence de subtilité, et puis là il y a une différence de sucre. Donc moi ce que je préfère c'est la September.
D'accord.
Et la Red.
D'accord.
La September et la Red, élue meilleure framboise du plateau dont on va déguster par Jérôme Gagnès. Y aura-t-il des framboises dans la recette d'Elvira Masson?
On va déguster.
Ça va, Lady Masson?
Ben, ça va moyen. Je sais pas si je suis de vous montrer ce que j'ai préparé hier soir.
Vous êtes intimidée par la présence de Frédéric Cassel?
Je suis plus qu'intimidée, je suis mortifiée.
C'est vrai que vu la beauté de vos gâteaux, Frédéric Cassel, il y a de quoi complexer un peu.
Non, mais c'est un intérêt socioculturel, ce que je vous raconte, pas forcément gustatif.
Oui.
On va dire que si la pâte feuilletée et la viennoiserie aussi sont une preuve du génie français. Le pudding en est une, à mon sens, du génie anglais.
Ça y est, ça m'aurait étonné.
Ne partez pas en fou rire, ne froncez pas trop des sourcils.
Elle ramène encore sa fraise.
Ça commence
avec
pas bien,
son anglophilie.
Attendez, on n'allait pas faire la dernière émission avant les vacances sans que j'y apporte une petite touche british ou exotique.
Mais c'est tout naturel et on vous le pardonne.
Et je persiste, le pudding est un art. Et dans sa version hivernale, je vous parle évidemment du fameux Christmas pudding. Farine, œufs, raisins secs, oranges confites, amandes, cannelle. Et quel est l'ingrédient le plus important du Christmas pudding? Vous le savez? Le Saint-Doux.
Oui.
Cuit au bain-marie, servi avec son brandy butter. Aujourd'hui, je vous apporte la version collection printemps-été.
Mais attendez, c'est cette colline rose bonbon.
C'est cette colline rose bonbon.
Vous comptez nous la faire escalader?
Ben, je compte bien à ce que quelqu'un se dévoue, le plus sportif d'entre nous, peut-être Jérôme Gagnès.
Jérôme Gagnès, vous allez la chercher.
Ah bon, ben, si vous le voulez. J'ai rien fait, moi.
Pas un livre de cuisine classique britannique qui ne contienne sa recette de summer pudding, parce que c'est son petit nom, summer pudding. Là, je tiens entre mes mains une perle,
ah oui,
publiée chez Albin Michel en 1987.
Ouh là là.
Lady Di chez elle, les recettes d'une princesse. La recette du pudding d'été s'énonce comme suit.
La couverture, c'est du haut vol.
Génial, hein. Je l'ouvre assez régulièrement. Pour faire un summer pudding, il vous faut un pain de mie en tranches, une livre de framboise, une demi-livre de groseille et une demi-livre de sucre en poudre.
Jusque
le principe est de faire cuire à feu doux les fruits rouges quelques minutes avec le sucre. Alors depuis ce livre qui date des années 80, on a plutôt divisé par deux la quantité de sucre. On est passé de une demi-livre de sucre en poudre à plutôt trois cuillères de sucre en poudre. C'était les années 80, on a désucré depuis.
D'accord.
Les recettes sont unanimes depuis toujours. On n'ajoute pas d'eau à la cuisson des fruits. Alors attendez, j'ai préparé une crème anglaise, une vraie custard.
Oui.
Parce que la crème anglaise n'a rien d'anglais, bien sûr.
Ah, mais j'ai vraiment cru que c'était de la moutarde, par contre.
Mon Dieu, dit, si jamais le pudding n'est pas assez sucré, vous allez l'arroser de crème anglaise pour essayer, voilà, en mode un petit peu cache-misère.
J'en veux bien une assiette, Jérôme Gagnès.
Avec les tranches de pain de mie, si vous voulez bien me suivre un petit peu, de pain de mie blanc sans croûte, ou un bon pain de campagne peut faire l'affaire, mais les Anglais adorent le pain de mie, évidemment. De préférence légèrement rassis, on tapisse le fond et les parois d'un moule à pudding à charlotte ou d'un bol en les faisant se chevaucher un petit peu. On remplit avec les fruits qu'on a préalablement cuits un petit peu au sucre. On met le jus de côté. On met du pain de mie au sommet aussi. On place un poids sur la préparation. Direction le frigo, réfrigérateur pour une nuit au frais.
Non, non, c'est bon. C'est ça le problème. J'aurais bien aimé me moquer de vous, mais c'est bon.
Il est très important de réserver le jus des fruits, de pouvoir en avoir assez pour arroser après la nuit que le pudding aura passé.
Attendez,
au frais. Il
n'y
a pas de cuisson. Hein. Vous avez suivi, il n'y a pas de cuisson, il n'y a pas de bain-marie. Hein.
Non, mais ça se voit, c'est beau.
Ça se voit, c'est pas cuit. Alors, il y a beaucoup de débats sur le ratio de fruits rouges. Historiquement, c'était 3/4 de framboise et 1/4 de groseille. C'est ainsi qu'on servait ce dessert dans les cures thermales britanniques, parce que c'est un dessert qui date du XVIIIe siècle, et on le servait aux curistes qui traînaient du côté de Bath, qui étaient donc un petit peu au régime. Il est désormais courant d'y mettre également du cassis, ce que j'ai fait, mais j'ai ajouté des myrtilles, et ça, c'est pas très orthodoxe. Donc, pour une recette un petit peu plus contemporaine, il y a un livre formidable qui vient d'être traduit en français. Ah. C'est le livre d'Anna Jones, aux éditions Ulmer, dont je vous avais parlé il y a quelques temps, qui vient d'être traduit. On est supposé servir ce summer pudding avec de la crème. Moi, j'avais envie de crème anglaise, qui n'a rien d'anglais, bien sûr. S'il y a des Anglais qui nous écoutent, je pense qu'ils me le pardonneront jamais. Voilà, ça ressemble un petit peu à une éponge, on est d'accord. Mais de toute façon, pour aimer la cuisine british, il faut aimer un petit peu les éponges. Allez, enjoy.
Mais moi, j'aime ce côté justement un peu spongieux et certainement provoqué par le côté pain de mie des Anglais, non, justement.
Soyons très clairs, ce dessert est tout à fait fidèle à ce qu'on peut manger en Angleterre, dans les familles. Voilà. Après, on n'aime pas. Hein.
Mais c'est vrai que d'aspect, on dit un pudding, c'est jamais très beau. On pense quelque chose de très dur. Là, c'est hyper moelleux, c'est tendre, c'est bourré de fruits.
C'est très réconfortant.
Et c'est pas sucré.
C'est même très sûr, l'acidulé.
Non, mais c'est assez sûr. Enfin, on dessue quand même tous les desserts. Donc ouais. Pourquoi rajouter du sucre alors qu'il y en a déjà dans les fruits?
On est bien d'accord.
Voilà, moins il y en a, mieux c'est.
Et en l'occurrence, il y a un bel équilibre entre l'acidité et le sucre.
Oui.
L'acidité est très en avant d'être des fruits.
Le Enjoy. Summer Pudding by Lady
Happy
Mason.
Summer.
Bravo, Miss Mason.
La recette, évidemment, à retrouver sur franceinter.fr, à la page On va déguster.
va déguster se met à l'heure d'été.
Quantité de petits fruits rouges et noirs et des superbes pâtisseries sur le plateau dont on va déguster en ce dimanche d'été. Nous sommes en compagnie de Frédéric Cassel, grand pâtissier à Fontainebleau et auteur des Fruits rouges dans mon jardin. En voilà un livre bien d'été dont vous nous expliquez quelques recettes. Déguster les baies en 70 recettes aux éditions de La Martinière. Et Jean-Luc Thibault, producteur de fruits rouges dans une très jolie ferme que vous nous avez décrite il y a quelques instants, du côté d'Angers ou pas très loin.
Voilà, 15 km d'Angers.
La ronde des
la
fruits.
La ronde des fruits.
Nous avons quelques questions d'auditeurs. Édith à Marseille, la fraise des bois se cultive-t-elle? Et dans ce cas, a-t-elle la même délicatesse aromatique que la vraie fraise des bois sauvage?
Oui, absolument. C'est le même fruit. Il n'a pas été transformé, pas hybridé. Et donc, c'est un petit fruit très fragile qui pousse naturellement dans une terre riche, mais plutôt ambrée. Mmh. Que l'on récolte pendant tout l'été et qui est vraiment exceptionnel en arôme.
C'est vrai que le parfum de la fraise des bois...
J'appelle ça le caviar du pâtissier.
Oui, c'est quelque chose c'est magique. Un des goûts les plus subtils qui soit, on est d'accord.
Une délicatesse extraordinaire.
Mmh. Surtout que la fraise des bois, contrairement à sa grande sœur, la fraise qui nous vient du Nouveau Monde, est bien de chez nous, la fraise des bois.
Voilà, la fraise des bois est européenne.
Oui. Elle poussait, on la trouvait spontanément à l'état sauvage,
Nos latitudes. On la trouve encore dans les bois, dans les sous-bois, en montagne également.
En revanche, Agnès de Sarlat a l'air de se plaindre d'un autre fruit cultivé. La mûre cultivée paraît grosse et juteuse, mais c'est que de la gonflette par rapport à la mûre sauvage que l'on ramasse au bord des chemins, qui est elle beaucoup plus sucrée et plus concentrée. On ne peut qu'être d'accord avec Agnès.
Bien sûr. La mûre cultivée...
Retrouver le goût de la mûre sauvage.
Sans épines, est un fruit qui a subi des hybridations, qui malgré tout a son intérêt dans la transformation, puisque c'est un fruit plus acide qui laisse sortir tous ses arômes dans la transformation et notamment en confiture. L'alliage acidité-sucre permet de révéler les arômes.
Oui. Plus qu'avec une mûre sauvage.
La mûre sauvage, justement, en confiture.
Puis elle est ferme surtout.
Elle est
en confiture à cuire, c'est dur.
Oui, c'est ça. Mmh. Et elle est souvent trop douce et donc en confiture, elle est un petit peu trop douce.
C'est pour ça qu'on en fait plutôt de la gelée.
On est plus sur des gelées, justement, avec les mûres.
Brimbel dans l'est de la France et en particulier dans les Vosges, en brune, en morienne, ça ce sont des noms vernaculaires, de quel fruit à votre avis?
En brune?
La myrtille. La myrtille qui pousse à l'état spontané à partir de 600 mètres d'altitude dans les sous-bois pour peu qu'elle ait un sol un peu acide. Moi ça me rappelle personnellement des cueillettes du côté de Chamonix quand j'étais petit. Quel bonheur cette myrtille sauvage, faut se baisser, c'est un petit arbrisseau, un petit arbuste un peu rabougri, des baies vraiment... Tout petit et très coloré, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec les lèvres violettes et les mains noires. Pourquoi là aussi il y a une telle différence avec la myrtille que vous nous avez apportée et qui est beaucoup plus grosse?
Alors, c'est la même espèce, mais la myrtille européenne qui est un petit arbrisseau qui ne fait qu'une vingtaine ou une trentaine de centimètres de haut, contrairement à la myrtille d'origine canadienne, qui, elle, pousse sur des arbustes qui font un mètre, voire un mètre cinquante.
C'est ce que les Canadiens appellent les bleuets?
Le bleuet, voilà,
c'est ça. Au Québec, le bleuet, c'est ça. C'est quand même une cousine de la myrtille, mais on n'a pas tout à fait affaire au même fruit.
Non, sauf que dans les bleuets, il y a beaucoup de variétés et on a des variétés qui sont beaucoup plus aromatiques et qui se rapprochent de la myrtille européenne, notamment l'estive, une variété à tout petit fruit, là aussi. Souvent, la petitesse va aussi avec la concentration d'arômes.
Évidemment. Et le pouvoir nutritionnel de la myrtille?
Pendant la guerre de 39-45, on donnait des myrtilles aux aviateurs qui partaient la nuit pour bombarder les positions ennemies. Parce que la myrtille, elle a le pouvoir d'améliorer la vue.
La myrtille pour améliorer la vue, mais aussi la mémoire, paraît-il, et même pour la prévention de certaines maladies dégénératives. Ça, c'est une découverte assez récente. Le cassis comme anti-inflammatoire, la framboise pour prévenir certains cancers, et puis toutes les teneurs de ces fruits en polyphénol, antioxydants, vitamines de toutes sortes. Quand on évoque les superfruits, c'est vrai qu'on a tendance à se tourner du côté de l'Amazonie ou du cranberry d'Amérique du Nord, qui pousse quand même à 10 000 km de chez nous, alors qu'en fait... Il y a des petits fruits qu'on peut considérer comme des super fruits et qui sont des alliés essentiels de notre santé, non?
Oui, tout à fait. Tous ces petits fruits sont vraiment nécessaires et même indispensables dans cette période de l'année à l'équilibre et pour emmagasiner toutes les substances nécessaires à la résistance de notre organisme.
C'est ça. Donc vive les petits fruits, oui. Surtout quand on vient les cueillir chez vous. D'autant voilà. Qu'ils ne sont pas traités, on l'a bien compris. Passons à un autre fruit. Je sais que Frédéric Cassel a une vraie passion pour ce fruit-là et il vient de faire une sensation absolument incroyable sur le plateau dont on va déguster. Je vais évoquer évidemment le cassis. On évoquait la groseille au début de cette émission. Le cassis porte parfois le surnom de groseille noire. Et pour cause, c'est très proche botaniquement. Hein.
Voilà, c'est ça. C'est ça, c'est de la même famille.
La famille des
ribes.
Grossulariacées.
C'est ça.
Et les noms latins, c'est ribes.
C'est ribes, oui.
Famille des ribes. Donc,
mais cassis, c'est bien. Hein.
Cassis, c'est bien, on est d'accord.
C'est plus simple.
Foin de botanique, passons directement à la pratique. Avec notre ami Frédéric Cassel, vous aimez le cassis?
J'adore le cassis parce qu'il y a une acidité qui est assez exceptionnelle.
Et vous le cultivez?
Et alors, on cultive justement. C'est vrai que les fruits rouges, enfin, on aime bien les manger en barquette en général. Alors, on parlait de grosseur. C'est vrai que pourquoi on en arrivait à faire des gros fruits? Parce qu'en fait, les gens, quand ils, dans une barquette, ils trouvent ça petit, ils veulent pas les acheter. Mm-hmm. C'est de la faute des clients, ça, en fait, si on en est arrivé là. Alors que quand on va cueillir une framboise, qu'elle soit difforme, c'est pas très grave, puisqu'on l'accueille nous-mêmes. Et là, le cassis, c'est pareil. Et c'est vrai que pour moi, un cassis, ça se mange avec un flan, enfin un flan, une crème pâtissière, voilà.
Ça se passe bien, Jérôme Gagnès, ou pas? Dites-nous un mot, là, juste pour voir.
Ouais, moi, je suis d'accord avec Jérôme.
Il a la bouche pleine.
Je termine ma troisième part de flan. C'est une merveille.
Il est insensé, ce flan.
Pourquoi est-il bon, Elvira?
D'abord, normalement, un flan, moi, je trouve que ça s'accommode assez mal avec un fruit. Ça me donne pas spécialement envie. Là, il y a quelque chose entre l'astringence et l'acidité du cassis et la rondeur de l'appareil du flan, la vanille, le feuilletage. C'est un mariage.
Ah, mais c'est une merveille.
C'est un mariage au sommet, quoi.
Oui. Frédéric Cassel, j'exige la recette de ce flan cassis.
J'exige un flan cassis. Alors, allez, on y va. Non, tout simplement, une pâte feuilletée que vous achetez chez votre pâtissier. Vous l'étalez.
Pur beurre.
Ensuite,
oui.
C'est toujours pur beurre. Je ne sais même pas si la margarine existe encore sur tout ça.
Mais l'huile de palme.
Mais non, arrêtez. Un flan, ça doit être bon et simple. Donc ensuite, je mets mes cassis au fond.
D'accord.
Et ensuite, je mets juste un appareil à flan avec 750 g de lait, oui. 250 g de crème. Je suis désolé, je mets un peu de gras quand même.
Mais il faut.
4 œufs à peu près, et puis 250 g de sucre et 80 g de maïzena ou de poudre à flan que vous avez.
Pour la texture.
Comme une crème pâtissière, vous mélangez ça, vous mettez ça directement sur vos cassis. Il y a un petit peu de vanille.
Ah, on met un petit peu de vanille. Une demi-gousse
oui.
Bah, on gratouille
après,
une petite gousse.
C'est aussi au jugé à la maison, ça. Et donc ensuite, juste au four pendant à peu près 45 minutes.
La pâte feuilletée cuit pas à blanc?
Non, je la cuis pas à blanc. Pas pour le flan.
À quelle température au four?
C'est un four chaud, 200 degrés.
Et on obtient cette merveille.
C'est de la folie. Voilà. Hein.
Avec la crème soit encore
l'onctuosité du flan et l'acidité du cassis.
Il faut que ça tremble encore comme une crème brûlée. Quoi, à la fin. Bon, c'est un peu plus compact qu'une crème brûlée, mais il faut qu'on puisse le couper. Mais voilà, il faut que ça.
Pas que ça soit trop élastique.
Il faut que ça colle au couteau, quoi.
Quelle splendeur ce flan avec toute la qualité aromatique du cassis. Tellement aromatique ce fruit d'ailleurs que les Bourguignons en sont tombés amoureux.
Ça s'appelle le noir de Bourgogne. Alors le petit inconvénient de ce cassis-là, c'est qu'il n'est pas autofertile. Il a besoin du pollen d'une autre fleur de cassis pour pouvoir donner ses fruits. Donc dans chaque rang, à peu près tous les 5 à 6 pieds, on trouve une autre variété de cassis qui s'appelle le Royal de Naples. Donc un beau grand jeune homme venu d'Italie et qui, justement, est très prolifique au point de vue pollen et permet de fertiliser notre bon vieux noir de Bourgogne. Alors ce qui est intéressant pour le cassis, c'est pas un hasard si on donne son nom à la fois à la feuille, à la fleur, aux fruits et puis à la plante, c'est que quasiment toute la plante du cassis dégage le même arôme. Une crème de cassis, par exemple, en finale, quand elle manque un petit peu de parfum ou de choses comme ça, chez certains, on apporte du bourgeon de cassis pour renforcer le goût du fruit.
Ben, le grain de cassis, il lui arrive bien des vicissitudes. On commence déjà par le maltraiter puisqu'on le broie légèrement, le pauvre, et on le met en macération dans des cuves que vous allez voir à la cave. Ensuite, le temps de la macération dure environ 8 semaines. Et au bout de 8 semaines, cette macération, qui s'appelle le premier jus extra vierge, va être soutirée et va être additionnée de sucre. C'est ainsi qu'on fabrique une crème de cassis.
Le cassis, c'est l'autre fruit évidemment après le... En Bourgogne ?
Le raisin.
Oui, bravo, le raisin. Et parfois, le cassis et le raisin peuvent se rencontrer dans un verre.
Ah oui, c'est le bon chanoine, le maire de Dijon, qui avait inventé ça pour éviter de se trouer les chaussures et l'estomac en buvant des aligotés qui, à l'époque, étaient assez technique en termes d'acidité.
Donc des aligotés arrondis par
exactement.
Un peu de crème, un peu de cassis.
Mais il faut savoir que le chanoine Kir, la recette, c'était un tiers de cassis, deux tiers de vin blanc. Autant vous dire que c'était très sucré.
On nous demande justement sur le mail dont on va déguster à radiofrance.com si, quand on veut planter du cassis à la maison, on peut s'orienter vers le noir de Bourgogne, qui est cette variété privilégiée sur le terroir de la Bourgogne. Jean-Luc Thibault.
Tout dépend de la région où on souhaite planter. Mm-hmm. En Bourgogne, évidemment, il a sa place particulière. En Anjou, on plante plutôt de l'Andega, qui est une variété, la auto-fertile par contre, qui a été sélectionnée par Bernard Lantin, un chercheur de l'INRA, qui aujourd'hui fait connaître toute une gamme de fruits rouges. C'est l'entreprise Ribanjou.
Très bien. Et si dans toute la France on veut planter un peu un cassissier à la maison, l'Andega peut être une option.
Tout à fait.
Très bien. Eh bien écoutez, c'est bien d'être dit. Du vin de Bourgogne, on descend un petit peu plus au sud avec Jérôme Gagnaise.
On va déguster sur France Inter.
Ouh ! Oh le bruit ! Vous avez failli éborgner Elvira, Jérôme Gagnès, vous êtes au courant ?
Elvira a du
réflexe. Je mérite pas mieux.
Est-ce qu'on s'orienterait pas vers un vin un petit peu pétillant ? Avec ce bruit de bouchon.
Si, je vais vous faire découvrir aujourd'hui un des vins qui, pour moi, s'accorde le mieux avec les fruits rouges. C'est au même titre qu'on considère que le vin jaune avec un vieux comté, que un vieux Porto ou un vieux Bagnoul, c'est un vieux Mori avec du chocolat, c'est l'accord parfait. Eh bien, ce vin, c'est l'accord parfait avec les fruits rouges. Ce vin s'appelle le Buget Cerdon.
Ah, est-ce que ça dit quelque chose à quelqu'un, Buget Cerdon?
Moi, je connais. Donc, c'est vrai qu'avec les fruits rouges, c'est extraordinaire. Il y a un goût de framboise, un goût de... C'est vraiment très bon.
On a l'impression de boire un jus de fruits rouges.
Vous savez qui en sert tout le temps à l'apéritif dans son restaurant? Yves Candebord, au comptoir
Yves,
du relais.
Bien sûr,
absolument. Voilà. Grand amoureux du
Cerdon.
C'est
vrai que chez Yves, il y a du Cerdon. C'est du Cerdon de chez Raphaël Bartucci ou de chez notre ami Renard Dafache, puisque nous dégustons là un Cerdon de chez Renard Dafache. Avant de vous parler de ce vin en particulier, je voudrais vous dire un petit mot sur la région d'origine du Cerdon. On est dans l'Ain, à mi-chemin entre Genève et Lyon, à 30 km au sud-est de Bourg-en-Bresse. Donc, grosso modo, vous situez à peu près où on se trouve. C'est la patrie de Brillat Savarin. Il est né un peu plus au sud, il est né à Belley. Brillat Savarin, qui était très illustre pour son ouvrage « La physiologie du goût », publié en 1826. Alors, on est vraiment au cœur d'une région qui est une grande région de gastronomie.
Évidemment, un épicentre même en France.
Un épicentre, exactement. Avec cette appellation qui est toute petite, elle fait 180 hectares, donc c'est vraiment pas grand. Et elle se caractérise par deux cépages, Gamay et Poulsard. Alors c'est très étonnant parce que le Poulsard, c'est un cépage endémique du Jura.
Oui.
Le Gamay est un cépage qu'on retrouve beaucoup dans le Beaujolais, donc finalement un peu plus au nord, mais pas très loin. Et c'est la rencontre de ces deux cépages qui donne naissance à ce vin qui est un rosé pétillant. Donc tous les Bugets Cerdon sont des rosés pétillants, demi-secs, de méthode ancestrale. Alors un petit mot très rapide sur la méthode ancestrale que vous compreniez. C'est pas comme du champagne. La méthode ancestrale, c'est on récolte des raisins, la fermentation commence et on va interrompre cette fermentation en refroidissant la cuve. Mmh. On va mettre le vin en bouteille et ensuite on va laisser le vin se réchauffer un petit peu et la fermentation va recommencer en bouteille. Donc elle s'interrompt simplement et elle va terminer une partie des sucres qui sont encore contenus dans le vin, puisque tout n'avait pas été transformé au départ. Et cette fermentation, cette prise de mousse qui a lieu en bouteille, elle est assez courte puisqu'il y a très peu d'oxygène, donc elle va pas durer très longtemps. Donc elle va transformer encore un petit peu de sucre en alcool. Il va rester en gros, ça dépend des vignerons, mais en gros une cinquantaine de grammes de sucre résiduel. Et ça va faire au final 8 degrés d'alcool. Donc c'est un vin qui est vraiment dans l'esprit d'un pur jus de fruits. Et ces arômes sont le résultat de la fermentation du Gamay et du Poulsard. Ce sont en général des vins qui sont issus de macérations très courtes ou alors de pressurage direct. Ce qu'on a dans notre verre, qui est un rosé d'une couleur très soutenue, en fait c'est un pressurage direct. C'est ça qui est incroyable.
Vous nous rappelez juste en un mot le pressurage direct,
ça consiste à récolter des grappes de raisins rouges et à les mettre dans le pressoir. La particularité, ce que me disait Monsieur Renard Dafache, c'est que il presse très longtemps et il presse aussi, il va assez au bout de la presse pour justement acquérir un petit peu de couleur et acquérir un maximum d'arômes. Et c'est cette presse en fait qui est très importante. Ce qui est très important, c'est de comprendre que c'est un vin qui est très peu connu parce que jusque dans les années 70, on ne maîtrisait pas la méthode d'élaboration comme on la maîtrise aujourd'hui. On ne maîtrisait pas la température, ce qui est un facteur essentiel ici. Parce que M. Renard d'Affache, il fait son vin avec des levures indigènes et il arrive à faire fermenter ses vins entre 5 et 10 degrés, ce qui est une température extrêmement basse pour la fermentation. Et je lui ai posé la question, ça n'est possible que parce que les levures, localement, se sont acclimatées et qu'on a réussi aujourd'hui à avoir des levures indigènes qui sont sur les raisins, qui sont dans les caves, qui sont capables de faire fermenter ce raisin pour commencer à moins de 10 degrés. Et donc ça préserve beaucoup les arômes de fruits. Et c'est ces fermentations à très basse température qui permettent d'éviter de mettre trop de soufre, de conserver les arômes de fruits et d'arriver au final avec ce vin de cette méthode ancestrale, qui est donc un rosé demi-sec, qui explose d'arômes de framboises, de fraises des bois, parfois des notes un petit peu de pommes vertes, ça peut arriver, avec une effervescence qui est très fine, une bulle qui est très légère. Hein, on n'est pas là à spignoler devant le verre en disant ah, comme les champenois, bah oui, alors là, la bulle est fine parce qu'ils ont des verres spéciaux. Non, en bouche, on a véritablement une mousse crémeuse, une évanescente comme une chantilly, très délicate. C'est d'ailleurs en bouche qu'on teste l'effervescence d'un vin, c'est pas à la vue, c'est pas au verre, on s'en fout ça. Et donc là, on a un vin qui est acidulé, il y a 50 grammes de sucre résiduel, et c'est l'accord parfait avec les fruits rouges.
Et on s'oriente vers quel domaine ?
Le domaine Renard d'Affache, Cerdon du Bugey 2017. Vous trouverez sur le site, l'adresse du site internet du vigneron, et là vous aurez la liste de tous les cavistes et restaurateurs qui distribuent son vin. Vous le trouvez à une quinzaine d'euros. Il a gelé à 70% l'année dernière en 2017.
Quinzaine d'euros chez les restaurateurs ou au domaine ?
Quinzaine d'euros chez les cavistes.
Oui.
Et vous en trouverez quasiment pas au domaine parce qu'il a 70% de récolte en moins. Mais il y en a plein chez les cavistes, il faut aller chez les cavistes.
Le Cerdon avec cette qualité, cette pétillance, cette gourmandise, on se demande pourquoi il n'y a pas un succès planétaire à la clé.
Ah oui, pas trop parce qu'on n'en aura plus, donc il n'y a que 180 hectares. Et puis il n'y en a quand même pas non plus 500 qui font des vins aussi bons que Renard
d'Affache. Vous aimez Frédéric Cassel?
Moi j'adore.
C'est vraiment prodigieux. On a quelques auditeurs qui nous disent « mais vous n'avez pas parlé d'accord salé ». Avec les fruits rouges, c'est vrai qu'on a surtout parlé de dessert avec Frédéric Cassel. Est-ce qu'on aurait quelques petits tuyaux à leur donner ?
On voit de plus en plus à la carte des bistrots un peu contemporains une alliance poisson cru, type thon rouge avec des framboises ou avec... Si, ça fonctionne bien.
Ah non, ça fonctionne très bien.
Très bien.
Là encore, le gras du poisson est contrebalancé par l'acidité fruitée d'un fruit et franchement, ça marche bien.
J'ai eu des mauvaises expériences.
Thon rouge, framboise, je persiste et je signe.
Moi aussi.
Je l'ai fait plusieurs fois et franchement, ça marche avec une belle huile d'olive. Une autre idée, Frédéric Cassel ?
Moi, je suis plus sur la pizza pêche framboise, mais bon, il n'y a pas de salé dedans, mais...
Pizza,
une pâte à pizza. Vous prenez une pâte à pizza, vous achetez une baguette, vous l'étalez, vous mettez un petit peu de crème fraîche, des pêches ou des abricots ou des figues et
mais c'est pas salé,
framboises.
C'est sucré.
C'est pas salé, mais bon, la pâte à pizza, c'est un peu salé.
Et ça vous arrive, Frédéric Cassel, de mettre un petit légume dans une tarte aux fruits rouges ?
Ouais, on a fait une expérience, mais je vous l'ai amené là, donc on l'a goûté, tout le monde est... En fait, je vous ai laissé chercher, parce qu'il y a des choses, des fois, ça retient les clients. Et là, on a une tarte, on l'appelle la tarte parmesane, c'est un sablé au sésame. Dedans, on a fait un coulis poivron framboise. Donc on a juste cuit des poivrons au four, on enlève la peau, et en fait, on mixe ça avec nos framboises, on fait un coulis, il y a juste ça dans la tarte, et dessus, on a mis un sabayon parmesan. Alors les vieux parmesans, c'est très sucré. Et c'est vrai que là, si je vous l'avais dit, vous l'auriez pas mangé.
Mais qu'est-ce que ça donne, Elvira ?
Mais c'est délicieux. C'est très, très donc bon. J'ai décelé le poivron, mais ouais. C'est vrai que je pense que si vous me l'aviez dit chez vous dans votre boutique, je l'aurais pas acheté. Voilà.
Donc on l'appelle la tarte surprise, et les gens reviennent en fait la chercher parce que si on leur avait dit avant, ben moi j'ai horreur du poivron comme vous. Ouais. Et voilà, et j'adore cette tarte.
Et Jérôme Guénèse aussi, vous aimez ?
Ah, c'est bluffant. Et je l'aurais jamais acheté si on m'avait dit que c'était du poivron. C'est absolument délicieux.
Et la recette est à retrouver dans Les Fruits Rouges de mon jardin, Déguster les baies en 70 recettes par Frédéric Cassel, qu'on peut aussi retrouver dans sa boutique de Fontainebleau aux éditions de la Martinière. Merci beaucoup Frédéric de nous avoir rendu visite avec autant de générosité d'ailleurs. Merci, vous nous avez apporté les fruits de vos jardins qu'on va continuer à déguster, mais également une grande partie des spécialités à base de fruits rouges que vous vendez dans votre boutique. Et Jean-Luc Thibault, La Ronde des Fruits, une exploitation bio qui se situe donc dans la région d'Angers, vous nous en rappelez l'adresse ?
La Membrolle sur Longuenay, Les Noyers. Et donc c'est à une dizaine de kilomètres d'Angers.
Et on peut y venir notamment pour acheter des produits dérivés, des confitures, des coulis ?
Voilà, c'est ça. Nos produits, tous nos produits transformés sont disponibles pour tous les passants.
Merci beaucoup de nous avoir rendu visite. Ainsi s'achève la belle saison dont on va déguster, que j'ai pris une fois de plus beaucoup de plaisir à animer avec ma joyeuse bande de chroniqueurs et de chroniqueuses et ma fine équipe, Laurane Thomas, Nadia Chougui, que je retrouve avec plaisir à la rentrée. Merci à tous, les copains.
C'était un plaisir.
Merci.
Je vous donne rendez-vous le dimanche 2 septembre pour une émission encore ensoleillée autour d'un chapitre méconnu et passionnant de la cucina italiana, la cuisine de Calabre.
Chouette.
Vous allez voir, c'est passionnant. En attendant, rediffusion de quelques-unes de nos meilleures émissions. Pendant les 4 dimanches du mois d'août, dimanche prochain, notre émission dédiée à l'huile d'olive. Merci à tous et j'ai donc le droit de vous dire à dimanche prochain si vous avez encore faim.